Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actualité du jour et se réveiller de bonne humeur, 2h pour appréhender le monde autrement. Debout les copains se poursuit avec notamment l'éclairage historique de Fabrice d'Almeida. Monsieur Histoire d'Europe 1 revient ce matin sur le 26 février 1848 et la déclaration de la Deuxième République, un événement qui éclaire aussi l'actualité du moment.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le 26 février. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Eva Rock sur Europe 1.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 26 février, voici le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une.
Information Europe 1, la filière fruits et légumes demande une TVA la plus proche possible de 0%. Le scandale des pensions alimentaires non versées, près de 400 000 femmes seraient concernées en France. Et puis, passer l'été à travailler, certes, mais sur une île de la Méditerranée. Avouez que ça vous tenterait, nous serons avec les candidats à la fin de ce journal.
Europe 1.
Pommes, tomates, carottes, concombres sont aujourd'hui soumis à une TVA de 5,5%, mais c'est une information Europe 1. Le patron de la filière fruits et légumes demande un geste à l'État pour que les Français puissent en consommer davantage. Écoutez Laurent Grandin.
On propose d'agir sur la TVA, spécifiquement sur les fruits et légumes. Une TVA qui, rappelons-le, est à 5,5% aujourd'hui sur les fruits et légumes. L'objectif est le plus proche possible de zéro en fonction des arbitrages qui seront faits. On n'a pas de chiffre définitif. L'idée, c'est que, bien entendu, en contrepartie, la filière s'engage à ce que cette répercussion se fasse effectivement. Deuxième proposition, la question des populations défavorisées sur lesquelles on pourrait faire ce que nous avions fait il y a quelques années, c'est-à-dire émettre des chèques, émettre des bons d'achat fléchés fruits et légumes. Nous en avons parlé au président de la République. Bien entendu, on n'a pas de réponse en séance, mais ça fait partie des points qui sont notés dans le cadre des réflexions du Grand Débat National et qui présentent un intérêt à leurs yeux dans cette réflexion collective. Il y a quelques réticences, quelquefois, sur la TVA. Sur la question d'accompagnement des populations défavorisées, très clairement, ça m'a l'air de faire plutôt l'unanimité.
Laurent Grandin, président d'Interfel avec Anne-Laure Jumet pour Europe 1. On reste au milieu des plantes avec ce reproche qui a été beaucoup fait à Emmanuel Macron lors de sa visite au salon de l'agriculture samedi. Les retards, parfois de plusieurs années, dans le versement des aides pour les producteurs bio, ça me rend fou, a répondu le président. En attendant, ce sont les agriculteurs qui trinquent. Et puis, certaines régions ont réduit leurs subventions. François Coulon a rencontré un éleveur en grande difficulté.
Le tribunal de commerce d'Angers vient de placer Philippe Grégoire en liquidation judiciaire après 32 ans de carrière, sa faute, avoir cru au bio et aux promesses d'aides européennes brutalement revues à la baisse car il y avait trop de candidats.
On nous a promis qu'on aurait 38 000 euros d'aides par an pendant 5 ans. Donc moi je suis parti avec ça. Et puis la région Pays de la Loire a décidé de descendre à un plafond de 15 000 euros. Puisqu'ils ont mal géré les enveloppes en fait, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas anticipé. On nous a lâchés quoi.
Et vous vous retrouvez en liquidation judiciaire?
Oui, ça commence à tomber dramatique quoi.
Il vous manque combien?
Ça représente 130 000 euros.
C'est pas tenable?
Ah bah c'est impossible. Moi ce que je reproche, c'est qu'il ait changé les règles du jeu en cours de route. C'est ça qui est grave. Et on peut plus faire marche arrière après. On s'attendait pas du tout à ça. Devant un tribunal, ça peut être assimilé comme une rupture. Mais vous imaginez emmener l'État au tribunal ou la région au tribunal? Vous voyez de quoi on parle?
Philippe Grégoire et son épouse risquent de tout perdre, leur ferme, leurs 200 vaches laitières et les 36 hectares de terre de Chanzeau au sud d'Angers. L'exploitation avait été créée par le grand-père. Chanzeau, François Coulon, Europe.
Entre 4 et 7 hectares de champs dans les Yvelines ainsi que des rivières sont pollués par une fuite d'hydrocarbures. Un pipeline utilisé par Total depuis les années 60-70 semble être défectueux. Le groupe pétrolier assure qu'il va prendre en charge toute la dépollution.
Et c'est un scandale silencieux qui touche entre 300 et 400 000 femmes en France.
Oui, elles ne reçoivent pas la pension alimentaire à laquelle elles ont droit. Les pères ne veulent pas ou ne peuvent pas payer. Cela représenterait 4 pensions sur 10. Le gouvernement a décidé de mettre un coup de projecteur sur l'agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires. Explication d'Ève Roger.
Depuis 13 ans, Delphine élève ses deux enfants sans jamais avoir reçu un euro de pension alimentaire.
Bah, c'est vrai que moi, vu que ça fait 13 ans que le papa a disparu, que je ne sais pas où il est, malgré que je suis au RSA, j'arrive à m'en sortir. Si un jour ils arrivent à le retrouver ou s'il faudrait qu'il paye, il paiera. Mais à mon avis, ça va lui compter bonbon, mais bon, c'est pas grave.
En France, elle serait 300 à 400 000 femmes comme Delphine, confrontées à ces impayés, soit parce que les pères n'ont pas les moyens, tout simplement, soit parce qu'ils ne veulent pas payer. Dans ce cas-là, l'agence lance une procédure pour récupérer elle-même cet argent auprès des débiteurs qui ont des arguments plus ou moins convaincants, explique Marie-Christine Davrincourt, la directrice de l'agence de recouvrement.
On a parfois effectivement des débiteurs qui nous disent clairement qu'ils ne voulaient pas verser la pension alimentaire à madame parce qu'il y a encore un conflit latent au niveau de cette séparation. Après, certains débiteurs effectivement mettent en avant les difficultés économiques qu'ils peuvent avoir. Soit ils ont d'autres charges familiales, soit même ils ont eu des pertes de salaire importantes. Donc c'est pour cela que nous aujourd'hui, on est amené à les réorienter vers le juge pour qu'ils fassent réviser le montant de leur pension alimentaire.
En 2018, l'agence a lancé 180 000 procédures, mais 37 000 seulement, une sur cinq, a finalement abouti au bénéfice de la mère.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe.
Et puis on finit avec une carte postale ensoleillée, puisque c'est un boulot dont tout le monde rêverait, travailler sur une île en Méditerranée, en face de Bondol.
Oui, ça vous changerait des réveils à 2h du matin, ma chère Eva. L'île des Ambiers reçoit aujourd'hui des candidats pour des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Il y a 300 postes à pourvoir pour cet été. Reportage de Nathalie Chevance.
10 minutes de traversée pour atteindre l'île des Ambiers. À bord, Angelo, 28 ans, s'apprête à postuler comme maître d'hôtel. Ce Parisien très motivé en prend déjà plein les yeux.
J'ai vu un dauphin, effectivement, qui a suivi le bateau pendant 5-6 minutes. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, surtout pour travailler. C'est un cadre quand même idyllique. L'idée de prendre un bateau et pas prendre sa voiture, moi je trouve ça formidable. Pour moi, ce serait un job de rêve parce que j'ai toujours voulu travailler au bord de mer. Je croise les doigts.
400 candidats venus de toute la France tentent leur chance. 10 minutes pour convaincre, pour décrocher un contrat de quelques mois. Serveur, femme de chambre, mais aussi marin, agent d'accueil. Gilles Lévis, directeur des exploitations.
Une très bonne candidature, c'est surtout encore une fois une personne qui a ce savoir-être, ce savoir accueillir, ce savoir faire plaisir. C'est l'amabilité, c'est le sourire, c'est le fait de parler plusieurs langues, de pouvoir accueillir une clientèle internationale. Travailler dans un environnement préservé, on entend les mouettes qui sont juste à côté de nous. Une vraie opportunité pour chacun.
Un travail saisonnier intensif et les plus chanceux pourront même être logés sur l'île. Lydia, 46 ans, a déjà vécu l'expérience.
Idyllique. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller piquer une petite tête dans l'eau, de faire un peu de paddle dès que j'ai terminé le travail? C'est possible, c'est le rêve quoi.
Et plus de 200 000 touristes passeront par les îles cet été. Les Ambiers, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis, avant l'été, c'est déjà le printemps. Les températures très douces de ces derniers jours ont fait sortir les premiers pollens. Ça s'entend dans la voix de certains. Et avec eux, les éternuements en saccade. 11 départements du Sud-Est sont en vigilance très élevée pour les pollens de cyprès et de frênes. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h.
Ça va pas mieux, hein, François Giffrier.
J'ai rien dit.
D'accord, non, merci.
Je vois pas de quoi vous parlez.
Merci, c'était le journal de François Giffrier.
Europe 1.
Il est 6h06, c'est Baroque. À suivre, cette historique, comprendre l'actualité grâce à l'histoire. Aujourd'hui, Fabrice Delmeda évoque la déclaration de la Deuxième République. Un jour de février 1848. La réponse dans un instant sur Europe 1. Il est 6h07, Eva Rock sur Europe 1. Et un point sur la tendance météo du jour avec vous, mon cher Laurent Cabrol.
Et pour ceux qui ouvrent un œil...
Ou les deux.
Ça, c'est les deux.
C'est un drôle de bruit. Hein.
Moins 3 degrés dans
Allez,
la Nièvre.
Allez, chez l'ophtalmo, hein. Ça fait un bruit, hein. Franchement.
Moins 3 degrés dans la Nièvre et dans les Ardennes, ou en Haute-Saône, moins 1 dans le Haut-Rhin, 1 degré en Bretagne, dans le Bas-Rhin et la Lorraine, 2 degrés en Normandie et dans le Puy-de-Dôme, sur les températures actuelles. Et puis nous passons à 3 à Lille, 4 à Bourges, 5 à Marseille, 6 à Brest, températures actuelles toujours, 6 à Bordeaux, 9 à Paris, pas mal Paris, bien, et venant du diable Vauvert, les 10 soirs arrivent avec 11 degrés.
Refaites-moi le bruit de la paupière qui se réveille là.
On est sur un œil de verre là.
On est sur un apéro. Anissa, comment ça se passe sur les réseaux sociaux?
Ça se passe hyper bien. Vous êtes très nombreux ce matin à nous parler, notamment sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On vous a parlé du salon de l'agriculture. On vous demande quels sont vos souvenirs d'enfance à la campagne. Il y a Finois qui nous dit: bonjour Anissa la socialienne, les vaches de race Montbéliard sont mes animaux préférés. Boire du lait tout juste trait est un pur plaisir et un souvenir d'enfance. Merci Finois. Et je confirme, hein, les Montbéliard sont les plus belles. Quentin nous dit bonjour. Mes parents habitent à côté d'une petite ferme. Quand j'étais petit, les voisins ont demandé à ma sœur et à moi de nommer un agneau. Je vous présente donc Jacques. C'était dans les années 90 et je pense qu'on avait été inspiré par le président de l'époque.
Ah bah oui, a priori.
Dit Quentin. Vous pouvez continuer à nous écrire. Hein. Franchement, c'est génial de revivre vos souvenirs d'enfance. La science nous dit: good morning, mon animal préféré, c'est pas un lézard, c'est le panda. Et en vieillissant, je lui ressemble de plus en plus.
Merci beaucoup. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Et il ne cesse de faire des allers-retours dans le studio et personne ne s'en plaindra. Vous feriez mieux de vous installer définitivement ici, Jérôme Lacroix. Et c'est encore un journal des sports. À
Avec à la une, un premier rapport des enquêteurs britanniques sur les circonstances de la mort d'Emiliano Sala, mais encore beaucoup, beaucoup d'interrogations.
Pas d'explication pour l'heure sur le crash de l'appareil qui transportait le footballeur argentin dans son funeste voyage de Nantes à Cardiff. Des précisions néanmoins sur le plan de vol dans les ultimes minutes, notamment trajectoire sinueuse de ce petit aéronef malmené par les vents et la pluie au-dessus de la Manche. Autre enseignement du rapport, il est d'importance. L'avion n'avait pas l'autorisation d'effectuer des vols commerciaux. Jean-François Pérez.
L'avion, tout d'abord, ce Piper Malibu de 1984, rien à dire sur son état général. C'était un petit appareil de 6 places, correctement entretenu. Il n'avait pas de boîte noire ni d'enregistreur de bord. Cela n'est pas obligatoire pour ce genre d'avion. Il était équipé pour faire face aux givres et au gel. Cela a son importance. Il gelait en altitude en ce soir du 21 janvier au-dessus de la Manche. Le pilote ensuite, David Ibbotson, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Il possédait une licence de pilote en règle, mais il n'avait pas le droit d'opérer des vols commerciaux, simplement des vol en partage de coûts, sorte de covoiturage aérien. On ne sait pas à l'heure actuelle si Salah ou ses agents avaient payé le trajet ou si le vol entrait dans ce cadre. Le vol enfin, le dernier contact radar a eu lieu à 21h12. Le pilote demande alors à voler plus bas, peut-être pour échapper aux conditions atmosphériques et de visibilité. 5 minutes plus tard, c'est le crash. L'avion a été retrouvé 2 semaines plus tard. Il était en 3 morceaux, seulement maintenu par des câbles. Les nouvelles photos diffusées par les autorités sont terribles. Quant à l'enquête, elle va désormais se concentrer sur les conditions météo et les liaisons radar des dernières minutes de vol. Le rapport définitif est attendu dans les prochaines semaines.
Jean-François Pérez et le club de Cardiff se dit par communiqué très préoccupé par la question de la validité ou non de la licence du pilote et de sa qualification pour entreprendre un tel voyage. Cela pourrait jouer dans le versement par le club gallois à Nantes de 17 millions d'euros, le montant du transfert d'Emiliano Sala qui venait d'être conclu entre les deux clubs.
On parle tennis maintenant, entrée en matière plus compliquée que prévu pour Roger Federer, mais il a gagné,
voilà.
Donc ne soyez pas négatifs.
Pour le deuxième tour du tournoi de Dubaï, il a tout de même perdu un set face à l'Allemand Kohlschreiber, 31e mondial. Federer qui affiche 99 tournois remportés au palmarès, si d'aventure il s'imposait à Dubaï. Et de 100, forcément, il y pense, mais pas trop.
Tout au début, c'était pour moi d'arriver sur le tour à un moment donné. Et tout d'un coup, tu te retrouves à 99, et presque à 100 titres. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Le chemin, il est long, est dur, est difficile. Et il ne faut surtout pas y penser trop à ce chiffre-là. Il faut juste maintenant jouer au tennis, se faire plaisir et bien jouer surtout et essayer de jouer le meilleur tennis possible.
Et aujourd'hui, entrée en lice de Gaël Monfils face au Croate Cilic, 10e mondial.
Et on termine avec l'histoire du jour, Jérôme.
Celle d'une rare série vertueuse toujours en cours. 27 matchs d'affilée victorieux en Coupe de France pour les joueurs du PSG. Ils sont quadruples tenants du titre. Ils inaugurent ce soir les quarts de finale, réception de Dijon. Coup d'envoi 21h10. Dijon, avant-dernier de la Ligue 1. Et ça, c'est la petite histoire dans l'histoire. On rappelle que le mois dernier, c'était par les derniers du championnat, les Guingampais, que ces Parisiens avaient été éliminés de la Coupe de la Ligue.
Vous allez leur porter malheur, vous allez voir.
Attention. Ouais.
C'était Journal des Sports de Jérôme Lacroix. Et après l'activité physique, activité cérébrale avec notre historien maison Fabrice Dalméda. Comment expliquer le passé, le présent par le passé? Je la refais. Comment expliquer le présent par le passé? La preuve maintenant.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur un décret adopté par le gouvernement provisoire. C'était le 26 février 1848, la proclamation de la Deuxième République. Est-ce que ce changement de régime est un vrai tournant historique?
Ben oui, pour des raisons symboliques d'abord. C'est le moment où le drapeau bleu, blanc, rouge est pleinement accepté contre le drapeau rouge que la gauche socialiste voulait. Le bleu, blanc, rouge a été sauvé par le poète Lamartine, qui a rappelé le sang versé par le peuple pour le faire vivre partout autour du monde. Et cette république adopte le suffrage universel, certes masculin, mais elle sera la première à y recourir vraiment, et cela a permis l'abolition de l'esclavage peu après, le 25 avril 1848.
Alors on a l'impression, à vous entendre, que cette révolution rappelle bien des aspects de la situation actuelle.
Ben oui, la révolution a eu lieu parce que le régime précédent, la monarchie de Juillet, avait vieilli, elle était fatiguée, elle n'était plus capable de refléter les aspirations populaires. Elle interdisait les rassemblements au point de condamner toutes les réunions républicaines, même celles qui prenaient la forme d'un banquet pour essayer de contourner la loi. C'est d'ailleurs l'interdiction d'un de ces grands banquets qui a déclenché la révolution et fait naître la nouvelle république. restait la crise économique à vaincre.
Et alors là, comment ça s'est passé sous la Deuxième République,
oui,
on est bien d'accord.
Sous la Deuxième République, mais ça fait penser à aujourd'hui. Ben, elle a d'abord tenté de créer des emplois publics, des grands travaux avec des ateliers nationaux qui accueillaient les ouvriers chômeurs. Mais le budget de l'État n'a pas tenu. Alors, il a fallu recourir à la répression contre les ouvriers en juin et accroître les taxes sur les campagnes. C'est finalement la trahison de son président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, et son coup d'État le 2 décembre 1851 qui l'ont empêché de poursuivre le redressement amorcé. Elle avait su vaincre la famine qui menaçait encore en 1847 et reconstruire l'État, mais pas satisfaire le monde rural et ses notables de province, assoiffés d'ordre autant que de mieux-être. Cet épisode nous rappelle combien fragile est l'équilibre des institutions face au mouvement de fond de l'opinion.
Merci Fabrice, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'histoire.
Europe 1.
Il est 6h15, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit, 2 heures d'actualité et d'invités qui la font. À 6h20, nous recevrons notre confrère Olivier Delacroix et la journaliste Katia Maxime. Ensemble, ici, un documentaire diffusé sur France 5 ce soir, portrait croisé de femmes qui ont vécu dans une grande précarité et qui s'en sont sorties. Des combattantes pour qui les notions de pouvoir d'achat, mais aussi de solidarité et d'éducation ont un sens particulier. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h17, l'essentiel de l'actualité de ce 26 février avec vous Eva Rock.
850 salariés sur le carreau, l'usine Ford de Blanquefort va bien fermer malgré les propositions de reprise. Le ministre Bruno Le Maire réclame de l'argent au constructeur Ford pour un plan social solide. Les incidents en Corse, 1650 hectares ont brûlé depuis ce week-end. Les opérations des pompiers doivent reprendre ce matin. Nous rejoindrons notre envoyé spécial dans le journal de 6h30. Et puis Donald Trump et Kim Jong-un réunis ce soir à Hanoï au Vietnam. Le président des États-Unis est dans son avion pour rejoindre le leader nord-coréen qui est arrivé dans son train blindé. Ils doivent discuter de la question nucléaire.
Europe 1, 5h, 7h. Eva Rock.
Voilà pour les principaux titres de ce mardi 26 février. L'actualité, c'est aussi un documentaire poignant diffusé ce soir sur France 5 intitulé « Femmes du Nord, quand la vie est un combat ». Portrait croisé de 4 femmes qui ont connu une grande précarité, s'en sont sorties et ont fait de leur existence un combat, un film résolument optimiste, signé Katia Maxime et Olivier Delacroix. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? Merci d'être avec nous ce matin déjà.
Très bien.
Écoutez, ça pique un peu, mais ça va.
Ça pique un peu. Hein. Première question pour bien comprendre le contexte de votre documentaire. Quand avez-vous décidé de faire ce film et quand s'est déroulé le tournage? Katia?
Oui, on a décidé de faire ce film au printemps et même un petit peu avant le printemps de l'année dernière. Et on a commencé à tourner l'été dernier, donc je crois que c'était au mois de juin, entre fin mai et début juin. Et on a décidé de le faire à cette période-là parce que c'était la période qui était choisie en fait avec la chaîne pour tourner à ce moment-là.
Vous imaginez pourquoi je vous pose cette question? Parce
bien
que
sûr.
Évidemment, ça fait référence à l'actualité. C'est des femmes qui sont dans la précarité,
tout à
souvent
fait.
Des femmes seules avec des enfants qui gagnent très peu, 1200 euros en moyenne hein, sur les 4 femmes que vous avez interrogées. Et donc, on pense forcément aux gilets jaunes. Est-ce que c'est des femmes qui sont gilets jaunes, selon vous?
Alors, l'autre jour, Olivier, on m'a posé la question et... Ce sont des femmes qui pourraient porter le gilet jaune sans problème. Elles, bien évidemment, comme Katia le dit, au moment où on choisit de faire ce film, on est bien loin de penser que la France va traverser cette période sombre qu'elle traverse en ce moment. Mais je vous dirais que ces 4 femmes-là, elles n'ont même pas le temps de l'enfiler, ce gilet jaune, aujourd'hui. Et puis ça tient aussi, vous le verrez, à leur nature aussi. Elles sont discrètes, elles ont, comme beaucoup de femmes... voilà, ce côté très, je sais pas comment,
pudique. Comment, hein.
Pudique, voilà, pudique, exactement. Ouais. Elles ont beaucoup de pudeur parce que c'est très courageux de témoigner déjà lorsqu'on a été dans la précarité, parce que surtout chez les femmes, c'est quelque chose qu'on porte à vie. On y pense tous les jours et elles nous l'ont dit. C'est une cicatrice qui aura du mal de toute façon à se refermer.
Comment vous avez réussi justement à les amener à témoigner, Stéphanie, Elisabeth, Karine et Renée, dites Pépé?
En les approchant d'une manière assez délicate, je dirais, assez conscient aussi des clichés qui étaient véhiculés sur le Nord et en les rassurant, en leur disant que c'était surtout pas notre idée.
Oui, parce que vous avez tourné donc dans le département du Nord, autour de Dunkerque, ouais, notamment. Hein,
oui, c'est ça.
Qu'on soit
oui, oui, exactement. Dans les Hauts-de-France. Et ça nous paraissait être le bon terrain. On leur a expliqué pourquoi, puisque la pauvreté et la précarité, c'est vraiment un sujet important dans cette région. Et on les a rassurés parce que Stéphanie notamment, et elle le dit bien dans le documentaire à un moment donné, avait peur de l'étiquette Cassos. Et ça, on sent que c'est très prégnant dans le Nord. Et c'était aussi dans notre approche une façon de les rassurer en disant, voilà, c'est pas du tout notre, c'est pas ce qu'on a envie de faire en fait.
Et puis, il y a un argument Olivier, aussi ouais, qui me paraît vraiment important de vous préciser, c'est que ces femmes, lorsqu'elles étaient dans le doute, on leur a dit, ce documentaire, vous le faites pour les autres. Et c'est vraiment à chaque fois ce qui les a définitivement décidé à le faire.
Oui, alors ces quatre femmes, elles sont tombées dans la précarité suite à un problème de santé, un licenciement, un divorce, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous arriver à tous. Ouais. Est-ce que c'était votre objectif aussi de démontrer que la précarité, ça peut arriver à n'importe qui?
Bien sûr. Oui. Ouais, absolument. C'était l'idée sous-jacente de ce film, c'était de dire finalement personne n'est à l'abri. Comme vous le dites, ça peut être l'affaire de tout le monde demain. Et qu'on puisse s'identifier à ces femmes. Parce qu'en fait, ces femmes-là, elles ne sont pas à part, elles ne sont pas en marge de la société. Aujourd'hui, ça peut concerner n'importe qui en 2019.
Chacune a la volonté d'aider son prochain. On sent chez elle une sorte d'urgence à s'investir dans une association, par exemple. Est-ce que c'est des femmes qui se sentent redevables de l'aide qu'on leur a apportée à un moment donné?
Oui, totalement. Mais j'ai tendance à penser que toutes les femmes, lorsqu'elles ont reçu, développent ce sentiment de redonner ensuite. Je sens que c'est beaucoup plus important chez les femmes, cette notion de recevoir et d'évaluer qu'à un moment X de leur vie qui a été important, parce que pour toutes, ça a été important, la main tendue des associations. En plus, dans le Nord, où le tissu associatif continue vraiment de fonctionner, d'être là et d'être
c'est
tellement
un
important.
Un des points que vous développez aussi dans le documentaire
Mais
et
oui.
qui est ultra positif.
Mais oui. C'est un des rouages essentiels. Et c'est assez étonnant aussi de s'entendre dire que heureusement qu'il y a les associations, parce que souvent avec Katia, on s'est dit, mais si toutes ces associations n'étaient pas là, comment feraient tous ces gens?
Alors, vous avez notamment donné la parole à leurs enfants aussi, qui sont victimes de cette précarité. Est-ce que le parcours de leur mère les rend plus forts ou plus vulnérables? Enfants que vous avez pu interviewer.
Plus forts, incontestablement. D'abord, ils sont très matures. Ils ont un regard sur la vie qui est assez étonnant pour des jeunes gens. Et ils se nourrissent de l'histoire de leur mère. En fait, on le sent pour déjà ne pas reproduire le même schéma. Et on sent que ça, c'était très important pour chacune des mères de ce film. Et pour s'en sortir plus tard... différemment de leur mère, en ayant d'autres ressources, en ayant travaillé très jeune, en ayant le goût du travail, de l'effort, même si les mères l'avaient évidemment, hein, mais l'envie de s'en sortir et d'aller plus loin.
Et puis je rajouterais que pour tous ceux qui vont regarder ce documentaire ce soir, il y aura cette notion d'enfant qui connaissent la valeur des choses. Parce que nous sommes tous, finalement, ce soir, quand on regardera, on réalisera combien nous sommes de privilégiés. Et que ces gosses-là, très tôt, eh bien, ils connaissent le prix d'une paire de baskets, mais d'une paire de baskets achetées dans une friperie. Même si c'est une paire d'une marque, mais c'est souvent une paire recyclée. Et ces gosses-là connaissent la valeur des choses très tôt. Et je trouve que leur éducation, elle commence là. Et c'est pour ça que ça en fera sans doute de beaux adultes.
Ouais. C'est très poignant, c'est très sincère. Merci beaucoup, Katia, Maxime et Olivier Delacroix, d'avoir été avec nous ce matin. Votre documentaire est donc diffusé ce soir sur France 5 à 20h55. Femme du Nord, quand la vie est un combat. Et puis Olivier, on vous retrouve également à l'antenne d'Europe 1 de 15h à 16h. Est-ce que vous vous souvenez du thème de cet après-midi?
Oui, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire tous les gens qui vont se lancer ou qui désirent se lancer ou qui se sont lancés dans l'entreprise. On va faire parler tous ces jeunes gens, moins jeunes aussi, de leur expérience sur l'entrepreneuriat.
Eh bien, merci et rendez-vous à 15h. Merci à tous les deux.
À tout à l'heure, au revoir. Merci.
Europe 1. Il est 6h24, Eva Rock.
Debout les copains continuent sur Europe 1. Avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan, Laurent Cabrol nous livre la météo du jour.
Il est 6h26 sur Europe 1, hein, Eva Rock.
Avant de retrouver le journal de 6h30, la météo de Laurent Cabrol, parce que c'est tellement de bonnes nouvelles qu'on est heureux de vous avoir dans ce studio.
Bah, vous avez de la chance de m'avoir parce que j'ai rien à dire. Alors.
Oh non, ça m'étonnerait.
Je vais demander à nos amis simplement d'imaginer, de fermer les yeux, de vous dire, bon, allez, ce matin, il fait froid. On va se couvrir, mais on va se découvrir dans la journée. On peut prendre un petit chapeau de paille parce qu'il ne sera pas inutile, même si le soleil n'est pas forcément au sommet de sa forme, puisqu'il est bas sur l'horizon. Mais vous allez avoir une journée extrêmement agréable, avec rapidement des températures qui vont grimper. Nous aurons du 15 degrés sur la presqu'île du Cotentin, du 16 à Belfort, du 17 dans le Dijonais, 18 degrés dans Basse-Normandie, comme en Lorraine, comme à la région de Lyon, dans le Bas-Rhin, à Épinal aussi, 18 degrés. 19 à Paris, Lille, Besançon, Nice, 20 degrés à Marseille, Bourges et Clermont, Poitiers 21, donnez-moi une ville, 22 à Toulouse. Toulouse et Bordeaux.
Clermont-Ferrand.
Ah. Bon, Clermont-Ferrand. 20. 22 à Toulouse, 23 à Cahors et 24 à Biarritz. Encore une ville.
Dijon, vous l'avez dit. Hein.
Dijon. Ouais. Oui, bah, Dijon. Macon, c'est pareil. C'est la même température que Dijon. C'est
et
17.
À Strasbourg.
Allez. Strasbourg, mais je l'ai dit. C'est Strasbourg et Colmar, pratiquement même combat, 18 degrés.
Et Sochaux.
Pardon
Sochaux.
Sochaux, on est comme on est autour de 17 degrés.
Moi, c'est pas mal, hein. D'accord. Et Brest.
Oui. Et ça, vous avez fini là,
quoi. Demandez-vous.
Il passait la nuit. Brest, il fait bon à Brest en ce moment, 19.
Ah, c'est formidable, 19 à Brest, vous rendez compte.
Parce que l'air chaud remonte par l'Atlantique et remonte d'Espagne, il passe le long des côtes atlantiques. C'est pour la raison pour laquelle Brest a été longtemps une ville très chaude durant cette période.
Vous voyez qu'il y avait une bonne raison de parler de Brest. Merci beaucoup, Laurent. Restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, soit 2 heures d'information et de bonne humeur avec le journal complet et brillamment concocté par David Doucan. Voilà. Ensuite, ce sera rendez-vous avec vos trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos experts décortiquent l'actualité pour vous. Ce matin, Adrien Beck évoquera l'avenir de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à 3 mois des élections européennes. De santé, il lancera encore question avec Axel de Tarlet qui se pose une question : dans quel pays vit-on le mieux ? Quant à Aurélien Fleureau, il parlera économie et plus précisément d'industrie automobile grâce à un documentaire à voir ce soir sur Arte.
Vous écoutez Europe 1, vous êtes bien, bon début de journée, il est 6h30. 5h-7h, Eva Rock sur Europe 1.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Eva et bonjour à tous.
3 titres à la une, David.
C'est la solution irakienne. 13 djihadistes français ont été remis à l'Irak par les forces kurdes et cela va très bien à la France. Les incendies en Corse, le feu s'est calmé mais les pompiers sont toujours mobilisés. Le risque que les incendies repartent, le reportage de notre envoyé spécial dans ce journal. Et si on baissait la TVA sur les fruits et légumes et pourquoi pas 0% de taxes pour aider le pouvoir d'achat et promouvoir la consommation de produits bons pour la santé. C'est la proposition de la filière au Salon de l'Agriculture.
Europe 1.
Que faire des djihadistes français toujours en zone de guerre en Syrie ? Une solution se profile depuis hier. 13 d'entre eux ont été remis par les forces kurdes aux autorités irakiennes et cela va très bien à la France. Le sujet était au cœur de la rencontre hier entre les présidents français et irakiens à l'Élysée. Marguerite Lefebvre.
Le président irakien Barham Saleh l'a confirmé à l'issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Cette question des djihadistes français a bien sûr été évoquée. 13 d'entre eux, qui étaient jusque-là détenus par les Kurdes en Syrie, ont bien été transférés. Ils ont été remis aux soldats irakiens.
13 éléments de Daesh ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes contre notre pays et sur notre territoire. Ces djihadistes seront donc jugés en Irak, selon la loi irakienne. C'est dans ce cadre que nous agissons.
C'est donc à Bagdad désormais d'ouvrir ou non des procédures judiciaires à l'encontre de ces Français qui restent pour le moment emprisonnés en Irak. Leur rapatriement en France n'est pas à l'ordre du jour. Sur cette affaire d'ailleurs, Emmanuel Macron a refusé de s'exprimer. Il a botté en touche. C'est à l'Irak de décider des procédures. Voilà ce qu'a déclaré le président français. Alors que la France cherche toujours la bonne solution sur cette question du rapatriement des djihadistes. Une question qui continue encore d'agiter la classe politique.
Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Kim Jong-un est arrivé au Vietnam à bord de son train blindé après un périple de 4000 km depuis Pyongyang. Le sommet avec Donald Trump se tiendra demain et après-demain dans la capitale vietnamienne Hanoï. Deuxième rencontre après celle de Singapour. Objectif, arriver à la dénucléarisation de la Corée du Nord. L'Église catholique est loin d'en avoir fini avec la pédophilie. Le cardinal australien George Pell, numéro 3 du Vatican, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. C'est le plus haut responsable du clergé condamné dans une affaire de pédophilie. Une audience du tribunal de Melbourne est prévue demain pour fixer la peine à laquelle il sera condamné. La situation s'est stabilisée en Corse. Un peu plus de 1500 hectares ont été détruits par les flammes. Plusieurs enquêtes sont en train d'essayer de déterminer la cause des incendies, criminels ou accidentels. Et sur le terrain, les pompiers restent mobilisés. Il s'agit d'empêcher les foyers qui couvent toujours de se transformer à nouveau en incendies incontrôlables. C'est le cas par exemple aux abords de la forêt de Bonifato. Reportage de notre envoyé spécial Justin Morin.
3000 hectares de forêt, des pins maritimes, des chênes verts, des oliviers, entourés d'un maquis très sec. Il n'a pas plu depuis plus d'un mois.
À la moindre flamèche, la forêt de Bonifato pourrait partir en fumée. Le feu n'est pas très loin, les 150 pompiers présents font donc tout ce qu'ils peuvent pour éviter que les flammes n'atteignent cette zone située dans la montagne. Un travail très compliqué puisqu'elle est difficilement accessible. Avec l'aide des techniciens de l'Office national des forêts, des voies ont été défrichées afin de pouvoir faire passer les lances à incendie. Des pompiers ont aussi été héliportés sur les foyers encore actifs et ce travail devrait se poursuivre aujourd'hui selon le commandant des opérations de secours, le lieutenant-colonel Rigaud.
Notre objectif, c'est préserver au maximum cette ligne de crête. C'est une forêt très dense, c'est une forêt de résineux avec plusieurs couches de végétation qui se superposent et effectivement le feu se propage très vite et techniquement est difficile à éteindre. Voilà, donc pour nous c'est le type de végétation qui nous pose problème.
Jusqu'à présent, les vents forts soufflant jusqu'à 90 km par heure ont rendu les opérations très périlleuses, mais selon Météo France la journée devrait être plus calme. Les pompiers comptent bien en profiter pour enfin mettre un terme à cette série d'incendies. À Calenzana, Justin Morin, Europe 1.
Cette fois c'est terminé, l'usine Ford de Blanquefort fermera. Le gouvernement a entériné cet état de fait hier. Bruno Le Maire a jugé indigne le comportement du constructeur américain qui avait rejeté la nouvelle offre de reprise de Punch. Le ministre de l'économie a ajouté que Ford devrait payer pour le plan social, pour que le plan social soit solide et aussi pour garantir la dépollution du site. C'est un chantier éminemment délicat, couvre Nicole Belloubet, celui de la justice des mineurs. La garde des Sceaux a donné le coup d'envoi de concertation pour réformer l'ordonnance de 1945. Un projet de loi devra être présenté à l'automne. Son objectif est, je cite, de juger plus vite et mieux.
À suivre dans ce journal, nous serons au Salon de l'agriculture où la filière fruits et légumes s'apprête à lancer un pavé dans la mare. Ça concerne la TVA, alors pas de spoiler, mais enfin, vous vous en doutez, c'est pas pour l'augmenter. À tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h36, la suite du journal avec Eva Roch.
La suite du journal avec David Doucan, surtout à l'occasion du Salon de l'agriculture. La filière fruits et légumes demande une baisse de la TVA.
Oui, et pourquoi pas carrément la faire descendre à zéro. Pour rappel, aujourd'hui, les fruits et légumes sont taxés à 5,5. La filière tiendra une conférence de presse ce matin au Salon pour lancer cette demande. Avec pour argument le pouvoir d'achat des Français. Anne-Laure Jumet, vous suivez l'actualité du Salon pour Europe 1. Pourquoi cette revendication?
Eh bien, c'est d'abord une réponse à une forte augmentation des prix liés à la sécheresse cet été. D'ailleurs, près de 7 Français sur 10 ont perçu cette hausse. C'est ce que nous dit le baromètre Interfel France Agrimaire qui sera aussi publié ce matin. Cette augmentation, on l'a observée sur les fruits cet été et puis aussi sur les légumes racines cet automne avec des prix en progression de 15-20%, soit 20 à 30 centimes d'euros de hausse en moyenne. Ça, c'est conjoncturel, mais de toute façon, explique le président d'Interfel, il y a une réponse à apporter aux plus fragiles. Et puis, globalement, les fruits et légumes ont une image de prix plutôt élevée. Deuxième raison invoquée par la filière pour faire ses propositions, eh bien c'est une question de santé, de lutte contre l'obésité notamment. Pour atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait, selon la filière, doubler la consommation actuelle de fruits et légumes. Avec ces coups de pouce au pouvoir d'achat, on pourrait donc atteindre cet objectif.
Merci à vous, Anne-Laure Jumet. Passons de l'agriculture à la culture, wow. Oui, tout simplement.
Wow.
Et la culture.
J'ai épaté.
Bah oui, la culture en famille avec Jules Verne. Cela se passe au Théâtre Édouard à Paris. C'est une comédie musicale sur les romans de ce génie de la littérature. Le spectacle associe marionnettes, comédien chanteur. Cela s'appelle tout simplement Jules Verne. Thierry Geffrotte.
Jules Verne, enlevé par le capitaine Nemo. L'auteur de 20 000 lieues sous les mers n'y avait pas pensé. Et c'est pourtant ce qui arrive dans cette comédie musicale très enlevée. Imaginez Jules Verne adolescent. Il a 13 ans et il écrit déjà des histoires pour sa sœur et son frère. Mais surtout, il a un pouvoir immense et c'est le capitaine Nemo lui-même qui va lui révéler.
En racontant tes histoires, tu donnes vie à tes personnages. Mais as-tu pensé à ce qu'il adviendrait de nous si tu cesses de raconter ?
Cette comédie musicale, c'est à la fois un conte fantastique, une initiation à l'univers de Jules Verne, les héros voyagent en ballon, ils vont au centre de la Terre et font le tour du monde. C'est aussi une histoire déjantée. Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant sont de la fête. Et il y a même un T-Rex, vous savez, l'horrible dinosaure de Jurassic Park. Mais Dina, c'est son nom, est très gentille et ne fait pas du tout peur aux enfants.
Ça a l'air bien, non ?
Ça a l'air très très
merci
bien.
Merci à Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. C'est vrai que le terme déjanté est bien choisi.
Oui.
Jules Verne, le tyrannosaure, Blanche-Neige, hein, c'est un mélange Intéressant.
D'accord.
La Coupe de France.
Et sinon, voilà.
La Coupe de France de football avec le premier quart de finale ce soir. Le Paris Saint-Germain affronte Dijon au Parc des Princes.
Merci. C'était le journal de l'énergique, David Doucan. Et de l'énergie, vous en avez à revendre, cher David, parce qu'on va vous retrouver à la tête du journal de 8h et à 8h15 pour l'interview politique du jour. Qui est votre invité ce matin ?
Julien de Normandie, le ministre de la Ville et du Logement.
Merci beaucoup et à tout à l'heure. En attendant, on passe à la météo avec vous, Laurent Cabrol. La tendance du jour.
Tendance du jour, ma foi, c'est simple, c'est du beau temps pour nous tous, avec des températures de 15 à 20 grosso modo sur la moitié nord et de 20 à 25 sur la moitié sud, moins 20 à 24. Les températures que je vous donne, tout à l'heure je vous donnais les températures à la volée, sont les températures du centre de la ville, mais il existe des températures, celles que l'on vous donne en général tous les jours, sont les températures des aéroports, parce que Météo France a ses antennes sur les aéroports, et c'est la raison pour laquelle il faut être précis, quand je donne Lyon par exemple là, Lyon, 18 degrés, c'est Lyon-Bron, parce que Bron est tout près de la ville, alors que Saint-Exupéry est beaucoup plus loin. Donc on essaie d'être au plus près de la réalité de ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Anissa, depuis 5h ce matin, vous êtes en lien avec les auditeurs sur Twitter.
Oui.
Et le hashtag Europe 1, que vous raconte-t-il ?
Ils nous parlent de leurs souvenirs de la ferme, parce qu'on leur parle du salon de l'agriculture aujourd'hui sur Twitter. Émergie nous dit « Coucou la team, mon premier souvenir de ferme, c'est en classe découverte en CE1, lorsqu'on a pu se faire lécher la main par un veau. Maintenant, parmi tous nos... Nimo, je reste en admiration devant la puissance des chevaux. Voilà, ce sont ses animaux préférés.
Merci.
À Emergy.
Merci Anissa, merci à tous.
Europe 1.
Il est 6h41, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour de l'info et de l'humour, avec de la rigueur évidemment et une pointe de légèreté, grâce notamment à la complicité de mes deux acolytes, Anissa Haddadi et Aurélien Fleureau. Et à suivre comme chaque matin, politique, économie, médias, l'actualité vue par nos trois fantastiques et des chroniques qui se répondent, le thème du jour, la santé.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Eva Rock.
13 djihadistes français qui étaient partis faire la guerre en Syrie ont été remis par les Kurdes aux autorités irakiennes. Une solution qui va très bien à la France. Le sujet était au cœur d'une rencontre hier après-midi entre les présidents français et irakiens. Le gouvernement a entériné la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Bruno Le Maire a jugé indigne le comportement du constructeur américain. Le ministre de l'économie a ajouté que Ford devrait payer pour que le plan social soit solide et pour garantir la dépollution du site. Et puis la Coupe de France avec le premier quart de finale ce soir. Le PSG affronte Dijon à 21h10 au Parc des Princes.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Il est 6h44 et c'est l'heure de retrouver nos super-héros de l'info. Voici les trois fantastiques, Aurélien Fleureau pour les médias, Adrien Beck pour la politique et Axel de Tarlé pour l'économie. Et messieurs, ce matin, vous avez fait le plein d'infos, depuis hier évidemment, Adrien Beck notamment, avec une question qui revient régulièrement. Y aura-t-il des ministres sur la liste La République En Marche pour les élections européennes, alors que nous votons dans trois mois, jour pour jour, dans 3 mois. Rien ne filtre sur l'identité de celui ou celle qui conduira cette liste, ni sur celle des candidats. Mais s'il y a un nom qui revient ces derniers jours pour figurer sur cette liste, eh bien c'est celui de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Et pourtant, elle est très bien là où elle est, Agnès Buzyn, et elle le fait savoir au travail, selon la formule consacrée. Son ministère, la Santé, elle y tient, c'est même sa spécialité, hématologue de son état. Mais la voilà, presque malgré elle, à l'entendre, émancipée de son rôle de ministre issu de la société civile. D'abord pour défendre un président trop seul au début de son mandat, ensuite pour parler d'Europe, sujet fondamental pour la ministre. Elle qui compare la construction européenne à celle d'une cathédrale au Moyen-Âge, c'est ce que des hommes sont capables de bâtir ensemble qui va les dépasser et leur survivra.
Ah oui.
Vibrant plaidoyer, c'est beau comme un discours de campagne, car Agnès Buzyn n'en fait pas secret, elle a envie de faire de la politique, avec peut-être en tête le parcours d'une Simone Veil qui fut sa belle-mère, ministre de la Santé comme elle, puis présidente du Parlement européen. De là à dire qu'Agnès Buzyn sera candidate aux élections européennes, elle ne s'est pas prononcée, balaie son entourage, car certains l'assurent, Édouard Philippe l'y verrait bien et l'aurait interrogé pour savoir si une candidature l'intéresserait. La ministre n'aurait pas dit non. En public, elle dément dans un sourire. Sans rien commenter, l'entourage du Premier ministre assure, lui, que le gouvernement est au travail. Formule consacrée, là encore. Alors, name dropping de ses amis, piste sérieuse, un conseiller ministériel analyse. Même si ça ne conduit à rien cette fois, ça lui permettra toujours de voir combien elle pèse dans la balance.
Oui, parce qu'Adrien, Agnès Buzyn n'est pas la seule ministre de la société civile à beaucoup parler d'Europe ces derniers temps.
Oui, hein. Nathalie Loiseau est elle aussi très à l'offensive en campagne, sans le dire, en particulier contre Marine Le Pen. Et ministre des Affaires européennes, c'est son job, me direz-vous, brillante, solide, énumère ceux qui la connaissent. Alors pourquoi pas en faire une tête de liste, trop techno, rétorque un de ses collègues au gouvernement. L'appétit politique en tout cas est là chez ces deux ministres. C'est normal qu'elles veuillent être élues, elles prennent goût à la politique, observe un brin amusé, un ministre lui-même très politique, propre d'une vie publique où malgré le contre-exemple d'Emmanuel Macron, il reste difficile de se passer de l'onction du suffrage universel pour être légitime, surtout si on a des ambitions.
Merci beaucoup Adrien Beck pour cet éclairage politique ce matin. On passe à l'économie et en fait on va continuer à parler de santé, Axel de Tarlé. L'Europe est le continent du bien vivre, c'est en Europe qu'on vit le plus sainement et le plus longtemps.
Voilà, et ce sont les Américains qui le disent, puisque je vous ai apporté là le classement de l'agence Bloomberg, donc qui est une agence américaine et qui s'intitule 2019 Healthiest Country Index, donc en traduction, l'indice des pays où l'on vit le plus sainement. Donc l'agence Bloomberg a compilé différentes informations comme l'espérance de vie, le système de soins, et puis alors, en revanche, vous avez des points en moins s'il y a beaucoup de gens qui fument dans votre pays ou s'il y a beaucoup de gens qui sont obèses. Et donc, on mouline tout ça, on classe 169 pays et le pays qui arrive en tête, il y a beaucoup de alors voilà pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui arrivent tout en haut du classement. Alors le pays européen et le numéro 1, c'est un pays européen, donc un pays
plutôt en Scandinavie, plus, non,
non, ouais. Pays du Danemark, sud de l'Europe, parce que non, pays du sud de l'Europe,
régime méditerranéen.
Exactement, l'agence Bloomberg dit en fait le secret pour être bien classé dans ce classement, c'est le régime crétois ou méditerranéen. Alors je vous le rappelle rapidement, parce que du coup, autant le connaître, oui. Ce secret. Alors, huile d'olive, fruits et légumes, ail, oignons, yaourt, fromage de brebis et beaucoup de poissons, peu de viande rouge.
Et donc, voilà. C'est quoi ? C'est l'Italie qui arrive premier ?
Eh ben, l'Italie est numéro 2. Elle s'est faite dépasser cette année par...
L'Espagne.
L'Espagne ! Ah. Les claquettes. Voilà, donc c'est le moment d'aller à Barcelone. Non, les castagnettes, pardon.
Les claquettes pour aller à la plage et les castagnettes.
Néanmoins, vous avez raison, les pays scandinaves sont aussi bien notés, ils sont tout en haut du classement, la Suisse est cinquième, on a la Suède, la Norvège.
Alors, et la France.
La France est quand même très bien classée parce qu'il y a énormément de pays, on est 12e et on a monté de 2 points, on est passé devant l'Autriche cette année. En revanche, alors il y a quelques pays non européens quand même, attendez, il n'y a pas que l'Europe, il y a le Japon, vous savez, on vit très vieux, la Corée du Sud, mais si vous regardez les États-Unis, première puissance économique mondiale, eh bien ils n'apparaissent qu'à la 35e place et c'est assez humiliant pour eux. Ils sont derrière Cuba. Vous savez qu'il y a Cuba qui est, Cuba, qui est 30e. Il y a beaucoup de médecins ouais, très bien formés à Cuba. Ouais. Les États-Unis sont mal classés. Il y a toute, vous en aviez parlé l'autre jour, Eva. Il y a toute une vague d'overdose
avec les opioïdes.
Tous ces médicaments opioïdes qui sont des antidouleurs et qui ont drogué toute l'Amérique. Mais vous avez la Chine également qui n'est que 52e. Vous voyez, derrière énormément de pays. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire, vous savez, on n'arrête pas de dire que l'Europe est plan-plan, que ce n'est pas le pays de la croissance. Peut-être, mais c'est le pays du bien-vivre. Et après tout, pourquoi fait-on de bonnes politiques économiques ? C'est pour que les gens vivent bien, vivent heureux et en bonne santé. Après tout, en début d'année, on se souhaite bonne santé, on ne se souhaite pas bon PIB. Donc vous voyez,
ouais, c'est vrai.
L'Europe et le continent du bien-vivre.
Merci.
C'est ce qui est le plus important.
Merci Axel de Tarlé. Aurélien, on va oublier le thème de la santé ce soir sur nos écrans, encore que, qu'est-ce qu'on regarde ?
Alors, je vous propose de vous pencher sur l'évolution de l'industrie automobile, donc il y a forcément un petit peu de santé aussi, à travers un documentaire diffusé sur Arte à 20h50 qui s'appelle Panne sèche, le crépuscule des dieux de l'automobile. Et pendant une heure et demie, toutes les évolutions du secteur sont évoquées, les innovations comme la voiture autonome, le durcissement des normes environnementales et leurs conséquences, notamment donc sur la santé, et puis aussi la lutte entre les vieux géants de l'industrie automobile et les nouveaux venus type Tesla, Google et des constructeurs chinois comme Geely ou Byton, avec des rapports de force qui sont totalement bouleversés. J'ai justement trouvé l'exemple de Byton très pertinent et symbolique de ces évolutions. C'est une start-up créée par d'anciens de BMW, donc le savoir-faire allemand qui s'exporte en Chine, pour produire des SUV qui seront 100% électriques et autonomes et ils seront normalement commercialisés à la fin de l'année.
Ce modèle ultra numérisé est un ordinateur sur roues. Il n'a plus grand-chose en commun avec les modèles thermiques actuels.
Et c'est maintenant qu'on réalise que les fabricants automobiles traditionnels ont du mal à évoluer. Pas parce qu'ils n'y comprennent rien,
mais parce qu'ils sont alourdis du poids de leur grosse structure. Comme ils ont encore du succès, c'est dur pour eux de se dire qu'il faut changer. Mais il y a aussi plein de nouveaux entrepreneurs, dont nous faisons partie, qui ont l'immense avantage de pouvoir être très réactifs et de faire dès le départ les bons choix.
Alors on le comprend, il y a une réelle inquiétude avec tous ces changements, c'est l'emploi évidemment.
Oui, puisque ce sont potentiellement 100 000 emplois qui sont en danger en Allemagne où l'industrie automobile fait travailler 800 000 personnes, donc un emploi sur 8 en danger. En France, on estime que la chute du diesel pourrait menacer 10 à 15 000 emplois, mais donc on l'a compris, hein, c'est un documentaire allemand qui s'intéresse donc plus aux constructeurs comme Volkswagen, mais en même temps c'est logique, hein, 3 ans maintenant après le scandale du Dieselgate et ses 11 millions de moteurs truqué. Et c'est donc justement cette affaire qui a bouleversé le secteur, qui a accéléré très fortement le passage notamment vers l'électrique, avec en même temps le durcissement des normes de CO2 fixées par Bruxelles. Les constructeurs risquent donc de très lourdes amendes s'ils ne respectent pas ces nouvelles normes. Et donc c'est clairement là une course contre la montre qui est enclenchée.
C'est à voir sur Arte à partir de 20h55,
oui,
Axel.
Le drame, c'est que dans la voiture électrique, la batterie, ça représente 30 à 40% de la valeur et qu'en Europe, on ne fait pas de batterie.
Oui. Pour l'instant, en tout cas, on est très loin, effectivement. Voilà.
Ouais. Merci beaucoup Aurélien Fleurot, Axel de Tarlet et Adrien Beck. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Europe 1, il est 6h52, Eva Rock.
Debout les copains touche à sa fin. Dans quelques minutes débutera la matinale de Nikos Aliagas. Et pour passer le relais à Nikos, rien de mieux qu'une statistique. Des sons enregistrés à l'insu d'une personnalité de la radio qui a décidé de prendre quelques vacances, sans parler de mon esprit malveillant.
Eva, arrêtez de dire n'importe quoi.
Je fais ce que je veux.
Il est 6h55 sur Europe 1, Eva Rock.
Debout les copains s'apprêtent à céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Mais avant, mon cher Nikos, je voulais disserter avec vous sur cette statistique, c'est difficile à dire. 63%,
dissertons ma belle.
Dissertons, 63% des Français s'ennuient au boulot. Et pour éviter de s'emmerder, je cite les termes du sondage réalisé par un site de recrutement, certains sont prêts à sacrifier leur pouvoir d'achat, à savoir gagner moins, mais pour un boulot plus intéressant. Alors autant vous dire que dans l'équipe de Debout les copains, l'ennui, ça n'existe pas. D'abord, on n'a pas le temps pour commencer. Et surtout, traquer les phrases incongrues, les bafouillages et les lapsus des autres nous amusent. Évidemment, nous sommes tous victimes à un moment donné de ce petit jeu pervers, plus certains que d'autres. Par exemple, Nikos, Laurent Cabrol et moi-même, soyons clairs, on morfle tous les jours. On est d'accord.
Tous les jours.
Ça, c'est vrai.
À cause de la malveillance de Mathieu Noël. Mais.
Tu n'es pas là.
Ah, la vengeance, j'adore.
Oui. Il est où là? Il est à Genève en train de regarder sur le lac ce qui se passe. Oui.
C'est exactement, tu n'es pas là Mathieu Noël et en fait je dors très très bien, d'autant que je vais pouvoir vous faire partager quelques moments de cette matinale enregistrée à ses dépens. Vous pensiez que Mathieu Noël était un être brillant, rationnel? Sortez le dico ou le petit manuel de compréhension.
Et ça, on avait dit qu'on le... Pour faire, tu sais, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? C'était quoi l'idée? Il faut que tu travailles dessus.
Voilà, allez,
on comprend rien.
Essaie encore Mathieu.
Attention, il y a deux étages, c'est tellement grand. J'ai passé 3 heures en bas avant d'aller en haut.
Voilà, parfois, je le reconnais, le sens de la phrase est beaucoup plus clair.
On va finir à poil ce soir.
Voilà, alors je jure. Non, mais je jure que je n'étais pas invitée à cette soirée. Et vous, Nikos, je ne sais pas.
Vous êtes soft, hein. Vous devriez sortir les vrais dossiers, ceux qui font mal. Non,
si,
je n'étais
pas
à sa soirée, évidemment, je n'étais pas là. En plus, il doit bronzer, il doit rougir comme une écrevisse.
Bah, ça, c'est sûr, il a une peau de roux. Non, il a la peau mate. Vous vous trompez, cher ami.
Vous le connaissez intimement?
Oui, mais bien sûr.
Merci, Eva
Rock. Intimement.